Les ateliers du présent proposent un lieu d'insertion sociale et professionnelle pour les personnes fragilisées dans leur parcours. Mais attention, ici, pas d'agent Pôle emploi et pas de course aux résultats. Des psychologues et des artistes proposent des ateliers de création où chacun échange, s'étonne, se révèle et petit à petit se rétablit. De 20 à 60 ans, des hommes et des femmes retrouvent ensemble confiance en soi et en l'avenir.
Donc je disais, donc j'ai intégré l'association Les Ateliers du Présent, je crois en juin de l'année dernière, juin-juillet de l'année dernière, dans le cadre de deux ateliers, donc un autour de, alors je ne me rappelle jamais toujours le terme précis, autour du dessin, c'est, même du moins le nom de l'atelier c'est
Écoute et peinture.
Écoute et peinture, et un deuxième atelier qui est autour des mots, puisque je suis assez passionné des mots, donc c'est un atelier qui me correspondait, et c'est pour ça que donc Ingrid me l'a proposé. Donc j'ai intégré ces deux ateliers, je pourrais faire, donc il y aura un témoignage ensuite que je vous ferai sur mon ressenti, mon vécu de ce que m'a apporté, ou ce que m'ont apporté ces deux ateliers. Donc pour en revenir en fait à Street Reporter, voilà, donc le but c'est dans un premier temps de faire ce référencement sur Lyon, et si la démarche est concluante et s'avère intéressante pour tout le monde, ça serait de l'étendre au niveau régional puis national. Donc nous, on va se recentrer aujourd'hui donc sur les ateliers du présent, avec Madame Dumas, toujours en face de moi. Donc on avait vu tout à l'heure donc vous avez, comment se passe donc concrètement l'apport en fait de la personne, comment, voilà, plus en détail, comment elle peut être aiguillée ou dirigée vers l'association.
Alors, nous, on est une longue ancienneté, hein, donc du coup, on a beaucoup de nos partenaires qui nous connaissent, hein, de référents socio-professionnels. On participe à tout un tas de réunions aussi locales et territoriales avec d'autres partenaires de l'insertion sociale, oui, et professionnelle. Donc, c'est comme ça qu'on fait connaissance aussi. On participe à différents forums. Et puis, nous, on organise aussi régulièrement des petits déjeuners aux ateliers du présent, oui, pour accueillir des partenaires, pour leur présenter les lieux, notre travail, pour présenter l'association et la manière dont on peut fonctionner avec eux. Mmh. Donc on a tout un tas de réseaux, et puis on essaye de se développer sur les réseaux sociaux.
Oui, tendance.
Voilà, c'est tendance. On n'est pas très doué, mais on essaye de se développer avec LinkedIn, on envoie des informations régulières sur Facebook. Voilà.
Et vous-même, vous avez un site
Oui, voilà, du coup, consulter. On a un site internet qui a été, c'est un moment important de l'association, qui est déjà assez ancien, mais qu'on a réactualisé récemment, qui présente vraiment l'histoire de l'association, l'équipe, notre travail, les différents ateliers. Et aussi, on a une vidéo qui a été réalisée par un cinéaste professionnel, mmh, et qui s'avère être le président de notre association.
D'accord.
Aussi.
Hein, okay.
Voilà. Donc tout ça, c'est des outils qui nous permettent de nous faire connaître aussi. Et puis, on a des partenaires très anciens, historiques, avec lesquels on travaille. Voilà, mais ça nécessite de se rencontrer régulièrement, mmh, pour continuer à parler de ce qu'on fait, présenter des nouvelles actions éventuellement. Et puis on continue à travailler ensemble.
D'accord. Alors, effectivement, c'est ce qu'on avait dit. Ce qui serait éventuellement bien, c'est sur le site après de Street Reporter, de faire un lien qui permettrait d'accéder directement à votre site afin d'avoir, puisque je crois qu'il y a des vidéos, il y a des photos,
oui,
plus des témoignages. Donc, ça permettrait de faire un complément en fait à l'interview d'aujourd'hui.
Oui, plus il y a des photos des réalisations,
voilà,
de participants aussi. Le site internet, c'est un lien assez très vivant qui permet de bien comprendre ce qu'on, mm-hmm, fait.
Hein. Ouais, puis c'est devenu presque un réflexe maintenant d'aller sur des sites ou des applications, des choses comme ça. Donc,
oui, tout à fait. Oui, quand on reçoit les gens en entretien d'accueil, généralement, les personnes sont toutes allées sur le site, mm-hmm, voir ce qu'on faisait.
Ah, ce que j'avais fait moi aussi en préalable.
Voilà.
Ouais. Au niveau, donc, on va utiliser le mot population. En fait, comment vous répartiriez la population en fait des participants en fait? C'est plus des gens issus du monde professionnel ou par exemple comme moi des gens qui sont issus de la rue, on va dire, ou précaires? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes comme ça en situation, on va dire, si on se concentre plus sur le domaine sans abri ou en précarité? Hormis le contexte, on va dire quelqu'un qui est sorti du monde professionnel, quelle part ça représente et est-ce que vous souhaitez, s'il n'y en a pas assez, développer plus
Alors c'est une bonne question. C'est vrai que là par exemple c'est la première fois qu'on travaille avec
la péniche
et on est très heureux de cette collaboration pour vous accompagner vous Eric et puis avec Ingrid hein, qui doit d'ailleurs participer à un petit déjeuner bientôt pour
la Vénarde
pour mieux découvrir l'association. C'est vrai que alors nous on a un gros financement de la métropole sur un public RSA
hein. D'accord.
Dans le public RSA qu'on accompagne, la dimension sociale, elle peut se poser pour une partie des personnes,
oui,
pas tous, mais quand même une bonne partie des personnes.
Oui, parce que c'est un revenu social de solidarité.
Tout à fait, de solidarité. Donc souvent, même s'il y a la question du travail qui est en arrière-fond, on est d'abord sur un public en fragilité sociale, avec des questions de logement qui peuvent se poser. Mmh. Alors parfois il y a un logement mais qui est insalubre ou il y a beaucoup de précarité. Voilà, il nous est arrivé aussi de recevoir des personnes qui vivaient dans la rue mais identifiées par la CARSAT par exemple.
D'accord. Donc, la CARSAT, pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc c'est la sécurité sociale. Hein, enfin voilà, donc plutôt du côté du soin, de la santé, et du coup un médecin conseil reçoit quelqu'un et identifie une personne complètement isolée. On en a reçu une personne qui une femme qui logeait dans sa voiture, hein, par exemple, ouais. Et qui avait travaillé. Pourtant elle était chef d'équipe. Et puis bon, les choses vont assez vite. Hein, je pense que.
Oui, je suis bien placé pour savoir.
Voilà, vous pourrez en témoigner mieux que moi, Eric. Mais ce qu'on perçoit, nous, c'est que quelle que soit la porte d'entrée, soit c'est une problématique de santé, une problématique au travail, une problématique personnelle, y a un effet domino qui peut être assez rapide, où il y a un enchaînement de fragilisation et puis un isolement social qui peut aller très très vite. Voilà, donc, et puis qui peut amener certaines personnes à être vraiment en grande précarité au niveau du logement et au niveau social. Voilà. C'est vrai que la situation, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le Covid a en plus amplifié ces phénomènes-là.
Tout à fait.
Et on a des jeunes maintenant, c'est un public qu'on avait moins, des jeunes entre 25 et 35 ans, là, en grande précarité, qui nous ont été orientés. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment du fait du Covid. Là,
c'est clair. Bon, quand on voit les files d'attente qu'il y a eu pour les banques alimentaires, des étudiants qui... Bon, avec les fermetures de tous les petits boulots, les petits bars, les restaurants, les McDo, tout ça, pendant le confinement et après. Donc c'est vrai qu'ils avaient plus cet appoint financier qui leur permettait de payer le loyer, payer leur bouffe. Donc effectivement, moi j'ai vu des reportages où j'ai eu le souvenir d'une étudiante qui faisait un repas tous les 4 jours. Donc c'est vrai qu'on a ça a accentué effectivement ce côté précarité, surtout au niveau des jeunes et des étudiants en particulier.
Oui.
Ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein, puisque le confinement date d'il y a 2 ans, mais c'est encore malheureusement vrai encore aujourd'hui.
Alors par exemple, on a une action, là, on a un financement de la métropole pour une action qui s'appelle Action pour la jeunesse, pour les 18-25 ans, en grande de fragilité, isolement social, rupture d'études ou rupture professionnelle. Par contre, c'est vrai que c'est un public qu'on a du mal à toucher, enfin en tout cas à amener vers nos dispositifs, mais je sais que d'autres associations ont le même problème. Mmh. C'est parfois un public un peu invisible aussi, et qu'on a... enfin, en tout cas, nous, à nos niveaux, qu'on a un peu plus de mal à faire venir dans nos dispositifs. Donc là, on a un gros effort à faire actuellement de communication pour se faire connaître, pour dire qu'on a des places, on peut accueillir des jeunes aussi en précarité. Et c'est un public qui est très, très, très fragilisé actuellement.
D'accord, effectivement. Ouais. Bon, ça fera l'occasion, via Street Reporter, de faire connaître... Les ateliers du présent à ceux qui peuvent ou qui pourront se sentir concernés. Donc.
Merci, oui, ça c'est. En tout cas, merci de cette initiative, on est très touchés et pour nous c'est important d'ouvrir aussi nos propositions à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas, parce qu'on a des places, parce qu'on a des partenariats, on est soutenu aussi par nos partenaires financiers, donc on a la possibilité d'accueillir quand même pas mal de personnes. Et tant mieux si on arrive à toucher des nouvelles personnes qui en ont besoin.
D'accord. Voilà. Et donc au niveau des intervenants, d'après, je vais peut-être dire une bêtise, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, La plupart des personnes qui animent les ateliers sont à la base de psychologues, c'est ça?
Alors, on a l'originalité, il y a des psychologues et des artistes.
D'accord. Ou les deux en même temps, peut-être?
Parfois les deux en même temps, vous avez raison. Parfois des artistes qui sont formés, qui ne sont pas psychologues, mais qui sont formés à la psychologie et à pouvoir accompagner des publics en fragilité. Mmh. Donc, on a tous un peu différentes casquettes. En psychologue, on n'est que deux psychologues dans l'association, sur l'équipe de 9 personnes. Après, tous les artistes, et on a une sophrologue aussi, mais tout le monde est en tout cas et a été formé soit à l'université ou soit pas dans son parcours professionnel sur des questions de pouvoir accompagner un public qui peut être en souffrance ou qui peut être en fragilité.
D'accord.
Voilà, nous ici on a la spécificité qu'on accueille tout profil. Ce qu'on demande, c'est que la personne qui est accompagnée puisse pouvoir supporter d'être dans un atelier collectif, par exemple.
Oui, pas toujours évident.
C'est pas toujours facile.
Surtout si on est resté longtemps, par exemple, à la rue ou tout seul. Après, de se refondre dans un groupe, ne pas se sentir exclu ou différent. Donc, effectivement, c'est...
Et oui, bien sûr. Donc, c'est des choses qui sont assez délicates et sur lesquelles on travaille. Mais parfois, pour les personnes, c'est trop compliqué.
Moi, je posais la question parce qu'en fait, au niveau... quand je parlais des psychologues, est-ce que vous assurez, par exemple, ou vous pouvez assurer un suivi pour des gens ou... d'une aide psychologique en fait en dehors de l'atelier, c'est-à-dire bon il y a l'atelier où on participe à l'atelier, mais est-ce qu'en dehors chez nous par exemple régulièrement on se voit une fois par mois pour un bilan mensuel on va dire, mais est-ce qu'en dehors de ça il y a possibilité pour des gens qui sont en grande souffrance ou en grande d'avoir la possibilité d'être suivi, parce que c'est vrai que quand on est exclu ou qu'on est précaire c'est pas toujours évident d'avoir l'argent parce que ça coûte quand même relativement cher. Donc est-ce que là vous avez entre guillemets cette prestation?
Alors non, on l'a pas, même si on pourrait le faire. Moi j'ai mon cabinet, c'est pas la place des ateliers du présent. Par contre si quelqu'un est en grande souffrance psychique à un moment, on l'accueille et on traite. Par contre, on n'est pas un lieu thérapeutique, on n'est pas un lieu de soins. On a des partenaires avec lesquels on travaille étroitement sur ces questions-là. Je peux citer par exemple le CPCT, qui est un partenaire. Le CPCT existe depuis une douzaine d'années, 12 ou 14 ans. C'est un lieu de parole pour les personnes et c'est des psys bénévoles qui proposent des accompagnements pour des personnes qui en ont besoin et qui le souhaitent. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des partenaires, c'est des lieux très importants pour nous, hein, parce que quand on voit une personne qui exprime le besoin, hein, ou pour lequel il y a vraiment un besoin, eh ben on peut s'appuyer sur d'autres partenaires qui ont le dispositif et les compétences aussi pour pouvoir assurer un suivi psy. Après, le fait d'être psychologue, nous, on a la possibilité de voir rapidement l'urgence de la situation, de définir si la gravité et l'urgence de la situation. Et du coup, à partir de là, on oriente vers des structures partenaires. Ça peut aller des urgences, s'il y a besoin, à des psychiatres, on a des réseaux de partenaires aussi.
Là, c'est une porte d'entrée après.
Voilà. Ou des structures comme le CPCT, où les gens s'engagent dans un travail de parole. Voilà. Après, même si on n'est pas un lieu de soins, ça a un effet un peu thérapeutique.
Oui, aussi, voilà. Aussi. Voilà, la thérapie, justement, c'est le point que j'allais aborder via les ateliers, en fait. Quelle en est la substance, en fait, quand on fait un atelier, en fait, quelle est la finalité? Bon, moi, je la connais un petit peu parce que j'y participe, mais par exemple, pour présenter, en fait, parce que l'atelier, c'est pas simplement pour faire un atelier, ou, par exemple, si on parle du dessin, c'est pas simplement faire un dessin. Qu'est-ce qui est recherché, en fait, à travers l'atelier, en fait,
Merci pour vos questions, Eric. Elles sont super, vos questions. Alors, nous, on a un lieu, c'est vraiment central la question que vous posez. Nous, on a un dispositif. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un accompagnement chez nous, il peut participer de 1 à 2 ateliers collectifs par semaine et puis bénéficier d'un entretien individuel. Hein, donc, quand on parle des ateliers du présent, on n'est pas une UMJC, on n'est pas un centre social, on n'est pas un lieu occupationnel. On propose un dispositif aux personnes qu'on accompagne, du collectif et de l'individuel. Hein, et on travaille comme ça. Et la personne accompagnée a la possibilité soit de garder les mêmes ateliers tout le long de son accompagnement ou de changer si elle a envie. Si elle
effectivement,
a envie de changer.
J'en ai croisé une fois un atelier, une fois à l'autre, une fois dans le couloir. Et on voyait qu'elle passait d'un atelier à l'autre, sophrologie, sculpture, etc.
Voilà, donc après, bon, on évite la consommation d'ateliers, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, on a un lieu
d'expo. Trop aussi, c'est peut-être pas, même pour la personne, c'est pas.
La personne choisit elle-même ses ateliers, vous l'avez choisi en fonction de vos centres d'intérêt. Mmh. Nous, on propose, c'est une invitation à aller vers des ateliers qui font plaisir, qui font du bien. Mmh. On n'est pas là pour travailler quelque chose, ni apprendre quelque chose, on est là pour expérimenter.
Tout à fait.
Et ce qu'on travaille ici, enfin, vous en parlerez mieux que moi, Eric, certainement, c'est à travers la dimension artistique, c'est de pouvoir aussi s'étonner, pouvoir
se révéler.
Mmh.
Ce qui m'est arrivé.
Voilà. Produire, entendre aussi d'autres productions artistiques d'autres personnes.
Oui, tout à fait. D'échanger aussi.
Échanger. Mmh. Hein. Voilà, c'est pouvoir expérimenter par tâtonnement. On se trompe, c'est pas grave.
Je rajoutais d'échanger sans se juger, en fait. Que ça soit, moi, je vois à travers l'atelier des mots, l'atelier du dessin. À la fin, il y a toujours une présentation, donc, de ce qu'on a écrit ou de ce qu'on a dessiné. Mais sans jugement de l'autre, en fait. On présente ce qu'on a ressenti de par l'exercice qui n'était pas imposé, mais proposé. Parce que c'est toujours à la base autour d'un exercice proposé. Et en fait, à la fin, donc, chacun expose sa version, la façon dont il a ressenti le thème, et en fait il n'y a pas de jugement, et c'est ça qui est bien aussi. Il n'y a pas de niveau de valeur ou de niveau de compétence en dessin, parce que moi je suis plus un barbouilleur qu'un dessinateur, même si je me surprends de plus en plus à faire des choses qui ressemblent à des choses qui me plaisent et que je trouve plutôt belles, en fait.
Voilà.
Donc je me surprends, en fait, surtout au niveau du dessin, à ma production, et je trouve que je passe des paliers, je sens que je passe des paliers, et c'est ça qui est super intéressant.
Voilà, vous dites l'essentiel, on a un lieu de surprise, hein, c'est-à-dire que si les personnes qu'on accompagne peuvent se découvrir des dimensions d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas, en tout cas, c'est une victoire, enfin, en tout cas pour nous, c'est un des objectifs.
C'est une belle découverte, et en plus, en ayant discuté avec d'autres participants, j'ai souvent entendu, moi, l'atelier dure 3h, 3h30, mais pendant ce temps-là, on pense pas à nos problèmes, on pense pas à autre chose. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de reposer le cerveau, de se reposer un peu, de partir sur que ce soit les mots, les dessins, la poterie, etc., enfin, que sais-je. Mais c'est vrai que c'est un moment d'évasion, en fait, où on oublie, en fait, et moi, ça m'a surpris, mais je pense pas le temps passe déjà très vite, les 3h, on les voit pas passer. C'est vraiment un moment qui est très reposant moralement, psychiquement. Quoi.
Oui, ouais. Oui, puis comme vous le disiez, Eric, on a un lieu sans attente.
Ouais.
On n'attend pas de résultats, on n'attend pas une production particulière.
Hein.
C'est-à-dire ici, c'est un lieu tranquille où chacun peut poser un peu ses valises, prendre du temps pour soi, et du coup aller oser expérimenter des ateliers, une pratique artistique, et se découvrir un peu.
Et se redonner confiance aussi.
Et se redonner confiance, oui, tout à fait.
Ouais, bon, ça, c'est très enrichissant, effectivement.
Ouais, complètement. Donc ça, c'est le cœur de ce qu'on fait. Hein. Ici, la dimension artistique, elle n'est pas occupationnelle. C'est une expérience qui permet de se connecter aussi à soi-même. Et puis,
là, c'est le vecteur, c'est pas la finalité.
Voilà, complètement. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et c'est aussi, par exemple, pour l'atelier des mots, comme le dit souvent Delphine, c'est pas un cours français, on n'est pas là pour la syntaxe, les fautes d'orthographe, entre guillemets, on s'en fout, puisque le but, c'est que chacun puisse exprimer via un exercice son envie d'écrire et ce qu'il ressent, voilà. Donc c'est pour ça, c'est effectivement, c'est
oui, que chacun trouve son style,
ouais.
Avec les mots, on peut avoir un style plus imagé, un style plus court, plus bref, d'autres
Ouais, puis on a des vocabulaires différents, il y a des gens qui ont plus de vocabulaire, il y en a d'autres qui ont un peu moins. Pour faire des phrases, c'est plus compliqué, ou même ne serait-ce qu'imaginer un texte, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que dans l'atelier des mots, il y a toujours une direction qui est donnée pour faciliter, on va dire, la création, parce que si on vous donne une page blanche en disant écrivez, oui, mais quoi? Donc si on nous donne une piste, c'est voilà, donc c'est effectivement ces ateliers. Enfin, moi, j'en reviendrai dans une autre, on va dire, dans une auto-interview sur mon vécu au sein de l'association depuis maintenant presque un an.
Et juste, je rajouterais, Eric, l'originalité aussi ici, c'est que les animateurs d'ateliers, ils créent eux aussi.
Oui, ils participent aussi. Ouais.
C'est-à-dire qu'un animateur, il est aussi en situation de participation et de création.
Ouais, il se met au même niveau que...
Voilà, tout à fait. Hein. Et ça, c'est important. Ouais. C'est-à-dire que c'est un lieu qui reste vivant, parce qu'on essaye aussi de créer nous-mêmes en animant des ateliers.
Donc, on a vu, en fait, au niveau donc, de la population, on va dire, maintenant, au niveau de la durée, en fait, ce sont des... les gens peuvent intégrer la structure. Bon, moi, je crois que... Moi, j'ai intégré pour 9 mois, je crois, mais il y avait une histoire de cotisation, c'est ça? Ou pas de cotisation? Par exemple, une personne précaire ou qui est à la rue, mais qui n'a pas ou peu cotisé, est-ce qu'elle peut quand même prétendre...
Alors, donc nous, c'est des accompagnements gratuits, bien sûr, avec des financements variés, hein, en fait. Vous, c'est vrai qu'Eric, vous avez, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais
oui,
en tout cas, c'est, vous avez dans vos activités professionnelles, vous avez cotisé pour la retraite à un institut de retraite qui s'appelle Apicil, et nous, c'est un de nos partenaires et qui du coup finance 20 accompagnements au sein des ateliers du présent chaque année.
D'accord.
Voilà, donc par votre expérience passée professionnelle, hein, même si elle est un peu, enfin, il ne s'agit pas de l'année dernière, mais ça peut être des années antérieures. En tout cas, donc on a au niveau des instituts de retraite et de prévoyance, on est à Piscine et on a AG2R la mondiale aussi, qui sont nos deux partenaires importants. Donc avec ces accompagnements-là, on est sur environ 8 mois d'accompagnement.
D'accord.
8 à 12 mois d'accompagnement. Après, on a d'autres financements qui sont plus des financements publics, hein. Donc pour le public RSA, par exemple, c'est la métropole. Mmh. Et donc là, c'est un accompagnement qui va de 6 mois à 1 an en fonction des personnes, hein. On a la possibilité d'aller jusqu'à 1 an. Après, on a des financements avec la direction du travail, la DREPS. C'est pour des personnes en situation de handicap. Là, c'est un accompagnement de 8 mois aussi. Après, on a aussi un accompagnement qui est plus pour des personnes de la ville de Lyon. C'est un financement de la ville de Lyon. Pour des personnes habitant Lyon, en fragilité et en arrêt sur la question du travail. Donc là, c'est un accompagnement plus court qui est de 5 mois.
Dans le cadre d'un burn-out, par exemple?
Ça peut être dans le cadre d'un burn-out, ça peut être dans le cadre d'une problématique de santé qui fait que les choses se sont arrêtées et que du coup, réenvisager le travail, ça, c'est quand même très compliqué. Là, il y a différentes situations. Voilà. Donc en fait, un accompagnement chez nous, en fonction de la porte d'entrée et du financement. On a aussi un de nos partenaires, c'est la CARSAT, la CPM. Voilà. Donc, en fonction de la porte d'entrée, les personnes vont faire un accompagnement entre 5 mois et 1 an chez nous. Voilà. Sachant que c'est un accompagnement sur la base du volontariat, c'est-à-dire que la personne est partie prenante, c'est elle qui décide,
c'est toujours
mieux. Voilà, si elle est d'accord ou pas. Et puis on accompagne. Et puis si la situation de la personne évolue pendant l'accompagnement, parfois on a des personnes qui retournent vers le travail, par exemple, et ben l'accompagnement s'arrête ou on aménage les choses pour continuer à avancer ensemble. On est là pour soutenir la personne en fonction des évolutions
aussi
qui peuvent de son parcours.
D'accord. Et si on revient donc à la plus précisément sur la partie, on va dire, précaire, sans abri, EDF. Une personne, par exemple, qui viendrait ou qui serait intéressée, mais qui n'a pas, par exemple, comme moi, cotisé à la piscine, parce que bon, il y a des gens qui sont à la rue depuis longtemps, mais est-ce que là, par exemple, une personne qui n'aurait pas cette cotisation, donc, on va dire, accumulée, est-ce qu'elle peut être quand même...
Oui, alors dans ce cas-là, ce qu'on conseille, soit les personnes nous contactent nous directement et puis on essaye de réfléchir avec les personnes pour voir quelle pourrait être la porte d'entrée. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous poser des questions. Et puis on essaye de réfléchir. Après, une autre porte d'entrée importante, ça peut être d'aller voir une assistante sociale qui peut être un prescripteur pour nous, c'est-à-dire l'assistante sociale de quartier ou d'une association peut envoyer une fiche de liaison pour qu'on reçoive la personne et pour qu'on puisse l'accompagner.
D'accord.
Donc, soit nous contacter directement, soit aller du côté d'une assistante sociale, c'est ce qu'il y a de plus simple aussi, ou d'une structure associative aussi.
Okay.
Ou de contacter des anciens participants. Enfin, vous pouvez être un référent aussi, Eric, aussi,
oui, tout à fait,
pour que des personnes de la rue puissent vous solliciter, vous servir d'intermédiaire, et puis nous.
En plus, j'ai l'avantage en étant en plus moi-même participant, c'est vrai que je peux mieux en parler puisque c'est du concret.
Voilà,
effectivement.
Hein, tout à fait. Bon, mais on laisse pas quelqu'un sur la touche, ouais. Surtout s'il y a vraiment une situation très préoccupante. Enfin, en tout cas, on fera tout pour accompagner la personne. Et si c'est pas possible chez nous, on a d'autres lieux. On prendra le temps de recevoir la personne, de réfléchir avec elle, si c'est pas possible chez nous.
Ouais. D'accord. Bon, je crois qu'on a bien balayé un peu tous les aspects des ateliers du présent. Donc pour finir, je ferai donc une prochaine interview en fait avec des participants des ateliers auxquels je participe, pour avoir aussi donc leur ressenti, leur vécu, ce que leur a apporté leur atelier. En tout cas, merci Madame Dumas de votre accueil. J'espère que ça n'a pas été trop long.
Non, merci à vous, Rick. Et puis, on est très fiers d'être associés à cette initiative et espérons un partenariat qui peut se faire avec la Fondation Abbé Pierre aussi.
Je crois que vous avez prévu donc de les rencontrer prochainement.
Tout à fait. Nous, on est vraiment très intéressés par cette démarche qu'on soutiendra comme on peut.
Et merci encore.